Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dorothée Rouzet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Boursorama, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. On va parler conjoncture, croissance, déficit, inflation, plein de choses qui nous intéressent. Juste un petit retour en arrière sur les chiffres de croissance 2023. Le chiffre, on l'a d'ailleurs, c'est 0,9 au final,
c'est ça ? 0,9.
0,9. Est-ce qu'il n'est pas un peu trompeur ce chiffre ? Parce que si on a réussi à faire ces 0,9%, c'est surtout grâce à l'acquis de croissance qu'on a eu il y a un an, quand on est rentré en 2023, et un deuxième trimestre exceptionnel, plus 0,7%. Le reste du temps, on était en croissance zéro.
Oui, mais je pense qu'il faut regarder sur l'ensemble de l'année. Effectivement, on a eu un ralentissement au deuxième semestre qui est assez net. C'est aussi pour ça qu'on part sur 2024 ouais. avec moins d'élan et donc qu'on a révisé à la baisse les prévisions de croissance pour 2024. Mais si on regarde sur l'ensemble de l'année 2023, il faut quand même voir, bon, d'une part, d'où on partait. On peut avoir la mémoire courte, mais quand on se rappelle ce que disaient beaucoup de prévisionnistes il y a un an, ils prévoyaient une croissance négative ou une France en récession sur 2023, ce qui ne s'est pas produit. Et ce qu'on a observé, c'est notamment une très bonne résistance de l'investissement, ce qui est quand même à saluer dans une période de très forte hausse des taux. L'investissement des entreprises a très bien résisté. Et du commerce extérieur, notamment parce que on avait et on a encore des marges de rattrapage des exportations par rapport à ce qui a été perdu depuis la crise Covid. Et donc, on commence à rattraper ces pertes de performance. Donc, on a eu ces deux moteurs de la croissance. Ensuite, pour 2024, l'histoire va être un peu différente.
Qu'est-ce qui se passe en ce début d'année ? On est toujours en quasi-stagnation aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, la fin 2023 a été une quasi-stagnation et c'est notamment parce que l'environnement international n'est pas très favorable. On a eu une Allemagne notamment qui a eu des chiffres très décevants. L'Allemagne, c'est notre premier partenaire commercial. Donc quand l'Allemagne ralentit, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie française. On a à la fois en termes d'exportation, d'importation, on est quand même très exposé à l'Allemagne. On a l'environnement international, les difficultés en mer Rouge, notamment sur les approvisionnements qui ont aussi pu créer un peu de tension. Et puis l'effet de la hausse des taux qui continue à se faire sentir, notamment dans le secteur de l'immobilier, de la construction, qui est le point le plus déprimé de l'économie française.
Donc on est toujours en quasi-stagnation. L'INSEE nous dit plus 0,2% au premier trimestre et pareil, plus 0,2% au deuxième trimestre.
Oui, ce qu'on voit en ce début d'année, en fait, c'est donc on a des signaux qui sont... je dirais un peu mitigé pour le début d'année. Effectivement, la plupart des prévisionnistes, l'INSEE et la Banque de France, prévoient un redémarrage, mais un peu timide, de la croissance au premier semestre. Quand on voit les enquêtes de conjoncture, on voit qu'on est sur des niveaux un peu moyens, en fait, qui ne sont pas un redémarrage très franc, mais qui ne sont pas mauvais non plus, qui nous mettent plutôt dans la zone d'une croissance un peu moyenne. Par contre, ce à quoi on s'attend ensuite pour le reste de l'année, c'est en fait, je dirais, les moteurs de croissance qui changent un peu. C'est-à-dire que, alors, on ne s'attend pas à un redémarrage de la construction rapide, donc ça va toujours continuer à tirer à la baisse, notamment l'investissement. En revanche, on a beaucoup plus de potentiel, mais qui s'accélérera plutôt sans doute en cours d'année, à la fois sur la consommation et toujours sur les exportations. Sur la consommation, parce que... on a un reflux de l'inflation qui est très net.
Qui n'est pas
très bien perçu. Après, c'est toute une question, effectivement, enfin, entre les chiffres agrégés d'inflation.
On est à 2,9 en février, chiffre INSEE.
Et on devrait continuer à avoir une baisse et arriver autour de 2% à la fin de l'année. Après, c'est vrai que dans l'inflation ressentie, notamment tout simplement les achats du quotidien comme l'alimentation, les carburants, etc., prennent un peu plus de poids. Mais malgré tout, on a une inflation qui baisse rapidement et on a des salaires qui devraient être assez dynamiques, notamment parce qu'ils rattrapent en partie l'inflation passée. Donc en termes de pouvoir d'achat, les Français vont gagner plus en pouvoir d'achat cette année et ça va permettre à la consommation de redémarrer. L'autre moteur, c'est encore une fois les exportations, parce que là où on a aussi pas mal perdu par rapport à 2019, c'est notamment sur les exportations aéronautiques. Il y a eu les difficultés d'approvisionnement, enfin il y a eu un certain nombre de difficultés qui font que ce secteur a redémarré plus lentement que les autres. Maintenant, quand on voit le planning de livraison d'Airbus, et ils le tiennent jusqu'à présent, on voit qu'on va continuer à progresser là-dessus et ça nous donne aussi un peu de souffle pour la croissance.
Dorothée Rouzet, sur ce 1% nouvelle prévision du gouvernement, on a dans l'actualité hier soir, tard, la Banque de France qui a dit « bon, c'est pas 0,9 qu'on prévoit, c'est 0,8 ». Bon, l'OCDE est à 0,6. On se dit que c'est quand même pas facile d'atteindre ces 1%. Ça reste du haut de fourchette?
Écoutez, vous choisissez ce que vous citez. Moi, je vous dirais, le FMI est à 1%, la Commission européenne est à 0,9%. Bon, en vrai,
j'ai pris la Banque de France parce que c'était hier soir.
Des prévisions qui sont assez proches. En fait,
mais c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir ça.
C'est pas facile, mais encore une fois, on voit quels sont les moteurs et au fond. Il y a des petites différences d'appréciation, par exemple, avec la Banque de France, mais on voit que l'histoire est assez similaire. C'est-à-dire qu'il parle aussi du redémarrage de la consommation. Alors, on peut débattre sur est-ce que ça va être, à quel trimestre ça va se produire de manière plus franche, etc. Mais on a plutôt un décalage dans le temps de la reprise par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre il y a 6 mois que vraiment un changement d'histoire.
Si on aime les chiffres, ce qui est le cas, vous et moi, si on part du principe qu'on a un acquis de croissance de 0,2%, sur l'année 2024, que l'INSEE ne se trompera pas dans ses prévisions, qu'on fait 0,2 et 0,2, elle me voit venir au premier et au deuxième trimestre. Combien il faut faire au troisième, au quatrième pour avoir les 1% de croissance?
Il faudrait faire autour de 0,3, mais bon, là,
plus.
On est dans les...
Pas plus. Faire 0,3 au troisième et 0,3% de croissance au quatrième serait suffisant pour aboutir à 1% de croissance sur 2024.
Ne me piégez pas sur les chiffres.
Ah non, possible, je ne cherche pas à vous piéger.
Mais c'est l'ordre
chiffres, c'est vous, hein, c'est pas moi. Hein.
C'est l'ordre de grandeur, c'est-à-dire que
on se dit que c'est jouable.
Il faut une accélération au deuxième semestre, donc il faut effectivement avoir peut-être un peu d'air aussi avec de premières baisses des taux qui pourraient se produire à l'été,
ouais.
Une consommation qui repart. Et voilà, il faut que des choses se produisent. Maintenant, on a quand même assez confiance je dirais, avec un peu d'incertitude sur le timing précis, ces moteurs vont bien.
On peut aussi tabler sur des bonnes surprises, parce qu'il faut arrêter de voir le verre d'eau aussi à moitié vide. Les taux souverains français, on est à 2,80 aujourd'hui sur le 10 ans français. C'est mieux que les 3,5 qu'on avait fin 2023. Donc, on peut aussi... ça peut nous aider, peut mettre un peu de vent dans les voiles, quoi.
Oui, bien sûr. Alors après, je dirais les taux souverains sont une chose. Je pense que ce qui impacte le plus, c'est aussi les taux auxquels font face les ménages et les entreprises.
Mais ils sont basés sur les taux souverains.
Mais l'évolution d'ensemble, c'est qu'effectivement, par rapport à la trajectoire de taux qu'on prévoyait pour la BCE ou que les marchés prévoyaient pour la BCE à la fin de l'année dernière, là, on voit que on pourrait avoir des baisses de taux peut-être un peu plus rapides. Alors évidemment, ce calendrier est un peu incertain aussi, mais on a vu une amorce de décrue sur les taux immobiliers, ça compte beaucoup pour les ménages. Pour les entreprises, là aussi, si elles retrouvent un peu d'air sur la charge de la dette, ça peut aider aussi à soutenir l'investissement. Donc pour l'État, évidemment, une moindre charge de la dette par rapport à ce qu'on prévoyait.
C'est bon, moins d'inflation d'ailleurs, pour l'État. Au global, d'ailleurs, moins d'inflation.
Oui, au global, l'inflation, c'est pas une bonne fin. C'est vrai qu'on a souvent ce débat. L'inflation, et notamment le type d'inflation qu'on a connu, tiré par les prix de l'énergie, l'inflation importée, c'est pas une bonne nouvelle pour les finances publiques. Alors, ça peut être une bonne nouvelle à très court terme sur le ratio de dette, parce qu'on a...
Plus de rentrée fiscale.
On a un peu plus de rentrée fiscale à très court terme. Maintenant, ça dure pas très longtemps.
On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu.
Oui, on l'a vu.
Au quatrième trimestre, sur les recettes fiscales, il manque 8 milliards d'euros à l'appel, manifestement.
Tout à fait. Mais ce n'est pas forcément lié à l'inflation. Ce que je veux dire, c'est qu'on a d'abord cet effet un peu qui peut être positif de l'inflation. Il ne dure pas longtemps, d'une part, parce que les dépenses de l'État aussi, elles suivent l'inflation pour un certain nombre d'entre elles. L'État paye des salaires, des prestations qui sont indexées, a aussi des consommations, des investissements dont le prix augmente. Et puis, tout simplement parce que, en fait, ce type d'inflation qui touche de manière très forte les ménages et les entreprises a donné lieu à des mesures de l'État, donc le bouclier tarifaire, etc., qui coûtent beaucoup. Donc, en fait, il n'y a pas de cagnotte. Au contraire, l'État a plus dépensé pour protéger face à l'inflation que ce qu'il a engrangé en recettes fiscales. Ensuite, effectivement, sur l'année dernière, il y a eu une très mauvaise nouvelle sur l'impôt sur les sociétés, notamment, enfin sur les recettes fiscales en fin d'année.
À la fois IS, TVA et IRPP. Hein.
Oui, mais le gros morceau, c'est quand même l'IS. L'impôt sur les sociétés, pardon, qui est un impôt qui est très difficile à prévoir, en fait, parce que...
Il est très volatile.
Il est très volatile. Il est basé en partie sur le bénéfice fiscal de l'année précédente. Mais ce qui est versé en décembre, c'est les grandes entreprises sur l'année en cours. Donc en fait, jusqu'en décembre, on peut avoir de très grosses surprises, et c'est ce qui s'est passé. C'est là aussi que ça demande ensuite d'ajuster du côté des dépenses au fait qu'on a moins de recettes qui sont rentrées.
Après, je reviens sur l'inflation, après on passe à autre chose. La Banque de France, dans ses prévisions d'hier soir, nous dit 2,5% d'inflation sur cette année, ce qui conforte le scénario du gouvernement, qui était à l'époque en septembre à 2,6, et qui faisait ricaner beaucoup de gens. Donc là, voilà, et 1,7% pour 2025. La question pour moi, j'y reviens, c'est quand les ménages vont vraiment percevoir ça? Et en quoi? Et à ce moment-là, ça pourrait effectivement impacter positivement leur consommation.
Oui, d'abord effectivement sur les chiffres, hein, les chiffres de la Banque de France ne sont pas très loin du scénario qu'on avait à l'automne. Et donc, je dirais le.
Et qui n'était pas une évidence à l'automne.
Qui n'était pas une évidence à l'automne, mais écoutez, parfois il faut se congratuler. La décrue a l'air de se produire à peu près comme prévu, si on peut dire, à la fois. Ensuite, pour les ménages, c'est vrai que parfois on a un décalage entre l'inflation qui est perçue, soit quand on fait des enquêtes, soit quand on. Et les chiffres macro, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une, c'est d'abord que l'inflation, on peut dire 2,5 sur l'année, c'est assez hétérogène en fonction des ménages, en fonction de leurs revenus, en fonction de est-ce qu'ils habitent en ville, à la campagne. Et donc, quand on est dans une situation comme on l'a connue les dernières années, où cette inflation, elle vient beaucoup de certaines catégories comme l'énergie et l'alimentation avant tout, selon le poids de ces catégories dans votre revenu, vous le voyez différemment. Ensuite, il y a des effets aussi simplement de l'inflation la plus visible, c'est celle sur les choses que vous achetez toutes les semaines, les courses au supermarché, le plein de carburant, etc. Et
ça crée un biais.
Et ça crée un biais qui est tout à fait compréhensible. Alors après, si le prix des voitures ou des téléviseurs baisse par ailleurs, ça a son poids dans l'indice des prix à la consommation, ce qui est normal, hein, puisque
mais on n'achète pas les téléviseurs.
Mais on l'achète pas toutes les semaines, donc on le voit moins. On le voit quand on le renouvelle une fois tous les 5 ans ou tous les 10 ans, et forcément dans la perception, ça change. Après, l'inflation sur les prix alimentaires, elle devrait baisser aussi, et donc ça pourra sans doute permettre aussi de réaligner un petit peu les perceptions et les chiffres statistiques.
Dorothée Rouzet, sur la question des finances publiques, des déficits publics, quand Bruno Le Maire nous dit que le déficit public 2023 sera significativement, sont ces mots, supérieur, elle me voit venir, à 4,9% prévu pour 2023. Ça veut dire combien a priori, vous n'allez pas me dire, mais combien, quand est-ce qu'on aura le chiffre? François Langlais sur RTL, qu'on aime bien, parle de, selon ses sources, de 5,5%.
Écoutez, je ne sais pas quelles sont ses sources parce que moi-même, je n'ai pas le chiffre.
Ouais. Alors que vous êtes à la direction générale du Trésor.
Voilà, on le connaîtra le 26 mars, donc l'INSEE publie ce chiffre.
C'est pour bientôt.
C'est pour bientôt. Donc il faut patienter encore un petit peu. Donc on aura le chiffre définitif. Enfin, le chiffre estimé par l'INSEE le 26 mars. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement.
Ce n'est pas la même histoire. Si c'est 5,1, 5,2, c'est une chose. Si c'est 5,5, ce n'est plus tout à fait la même histoire non plus.
Donc on pourra en tirer les conséquences à ce moment-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, parce qu'on a eu des rentrées fiscales qui étaient moins bonnes que prévues sur les tout derniers mois de l'année, donc après avoir fait les prévisions qui étaient sous-jacentes au budget, ce qu'on a observé sur novembre-décembre était en deçà des prévisions, donc on sait que ça va être plus dégradé. Après, l'ampleur, le déficit public, c'est à la fois l'État sur lequel on a les chiffres, les collectivités locales et la sphère sociale sur laquelle on a les chiffres plus tardivement. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre.
Ouais. Juste, pardon, le Trésor, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas, juste par rapport à Bercy, au ministère de l'Économie, la Direction générale du Trésor, elle fait quoi? J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs.
C'est vrai, bonne question. Donc la Direction générale du Trésor, c'est l'administration de Bercy qui se charge, je dirais de manière générale, de l'analyse et du conseil au ministre de l'Économie et des Finances, notamment sur les politiques économiques, alors sur un assez large éventail de politiques économiques, qui fait aussi les prévisions à la fois macroéconomiques et de finances publiques, en agrégeant les morceaux qui concernent aussi d'autres ministères. Et qui touche des sujets, alors on fait évidemment beaucoup de sujets macroéconomiques, finances publiques, mais aussi sectoriels. On investit aussi beaucoup sur les enjeux économiques de la transition écologique, des sujets européens, internationaux. Donc c'est une direction qui couvre des sujets assez vastes dans cette optique d'analyse et de conseil économique en général.
Bon, et je reviens au déficit public. Quand on a 5% de déficit public, est-ce que c'est s'auto-flageller que de dire que on est un mauvais élève de la zone euro, c'est là juste la réalité des faits?
Je pense que c'est la réalité des faits qu'on a un rythme de réduction du déficit qui est parmi les plus faibles de ceux de la zone euro. Ensuite, il faut savoir.
Je parle en valeur absolue. Je ne parle même pas de la valeur absolue quand on est à 5% aujourd'hui, factuellement en 2023. On est mauvais élève. La moyenne est à 3% et quelques,
oui,
je crois, en zone euro.
Après, faut voir aussi, on partait de situations différentes, des pays ont fait des choix différents. Je pense qu'il faut aussi voir les politiques publiques, je dirais, de manière un peu plus large. C'est-à-dire que l'objectif, y compris dans la zone euro, ne doit pas être non plus la course à qui réduit les déficits le plus fort et le plus vite. Sans penser aussi à nos objectifs en termes de croissance, de politique industrielle, d'investissement écologique, etc.
Donc, le but, s'il y a moins de croissance, ça veut dire moins de recettes fiscales, il faut recouper. C'est une espèce de cercle vicieux qu'on a connu dans les années 2010 et qu'on n'a pas envie de revivre.
Oui, ou si on coupe les investissements écologiques, on se prépare des temps plus durs pour plus tard. Donc, ce n'est pas non plus une bonne idée. Donc,
c'est un peu ce qui a été fait aussi.
Non, pas vraiment. Ce qui a été fait, ça a été de...
Sur 10 milliards, il y a 5 milliards où tous les ministères se sont serrés la ceinture.
Oui, tout à fait, mais qui sont aussi de réduire les dépenses de fonctionnement des ministères, de faire un effort, de répartir l'effort de manière aussi large que possible, justement, pour essayer de trouver les baisses de dépenses par rapport à ce qui était prévu, qui ont le moins d'impact sur la croissance. Mais après, dans le débat européen, et c'était aussi l'objet de la négociation sur les nouvelles règles européennes, il y a cette idée que le rythme de réduction des déficits de consolidation doit aussi être cohérent avec nos objectifs à la fois en termes de croissance, d'arrêter de décrocher en termes de croissance par rapport aux États-Unis, en termes industriels, en termes écologiques.
Avec ils ont 6-7% de déficit public. Alors je sais, ils ont le dollar, personne ne les enquiquine. Je veux dire, ils ont 2,5% de croissance. Est-ce qu'il faut chercher vraiment à repasser à tout prix sous 3% de déficit public? C'est l'engagement du gouvernement français d'ici 2027. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou alors on prend le risque effectivement d'abîmer la croissance?
Je pense qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'il faut le faire graduellement. C'est pour ça qu'il faut le faire de la manière aussi intelligente que possible, en regardant les dépenses sous l'angle de l'efficacité, en regardant pour les années à venir et quand on a un peu le temps de voir venir. En examinant par des revues de dépenses qu'on est en train de faire, de prendre des politiques publiques, voir si on peut faire mieux avec moins, ce qui est le cas de certaines.
Enfin, Moscovici nous parle de 50 milliards d'euros de besoins sur la période 2025-2027 pour pouvoir, encore une fois, respecter notre trajectoire budgétaire. 50 milliards, c'est du jamais vu, ça, hein ?
Oui, après, on peut discuter des chiffres, mais ce qui compte, en fait, c'est de revenir... Je dirais à des finances publiques maîtrisées à un point. Et pourquoi 3%? Est-ce que c'est un totem 3% en 2027? Je dirais, il y a plusieurs raisons de pas renier l'objectif. D'abord, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise, d'un nouveau choc. Si on part sans marge de manœuvre, on aura du mal à y faire face. Ensuite, c'est un niveau de déficit, 3%, qui permet de faire baisser notre ratio de dette de manière...
De stabiliser.
Non, de faire baisser. À 3,5, on stabilise, à 3, on fait baisser.
Okay.
Et donc, qui nous met aussi sur le chemin d'une dette, qui nous assure qu'on a une dette qui est soutenable sur le long terme. On n'est pas tout seul. On a pris des engagements européens. On s'est battu pour, justement, avoir une réforme des règles budgétaires européennes qui prenne mieux en compte les enjeux d'investissement.
Qu'est-ce qui change d'ailleurs en 2024? Je n'ai pas bien compris sur ces règles budgétaires européennes, ces nouvelles règles.
Alors 2024, c'est une année de transition. Donc en 2024, pour l'instant, on est encore dans l'entre-deux. À partir de 2025, les nouvelles règles vont s'appliquer. Ce qui change, c'est qu'on a d'abord plus de différenciation entre les pays de l'objectif. C'est-à-dire que chaque pays va proposer lui-même sa propre trajectoire. Donc qui doit mettre sa dette sur une trajectoire de soutenabilité et de décrue du ratio de dette. Et on a une meilleure prise en compte des investissements et des réformes. Concrètement, on va devoir présenter un plan de moyen terme avec à la fois notre trajectoire macroéconomique et budgétaire et des projets d'investissement et de réformes. Et à partir du moment où l'ambition de ces investissements et de ces réformes qui doivent soutenir à la fois la croissance, les ambitions écologiques, par ailleurs la soutenabilité des finances publiques via plus de croissance ou plus d'emplois, etc., sont suffisamment ambitieux, on peut obtenir en fait d'avoir une consolidation budgétaire un peu moins rapide, de manière à préserver cet espace pour faire les investissements. Donc ce qu'on gagne, c'est beaucoup cette mise en cohérence un peu de nos objectifs macro et de nos objectifs budgétaires, qui jusque-là étaient un peu décorrélés et pas toujours cohérents.
Dorothée Rouzé, dernière question. On sait que les agences de notation doivent rendre leur verdict. Alors il y en a une fin avril, je crois que c'est Moody's, et fin mai, juste avant les élections européennes, c'est le hasard, Standard & Poor's sur la qualité, la note de la dette française. On a souvent le sentiment que c'est un peu de fébrilité à ce moment-là. Comment vous le vivez et,
Oui,
au sens... que vous redoutez, ce qu'on dit à chaque fois, une dégradation de la note française.
Bah, écoutez, une dégradation de la note française serait une bonne nouvelle pour personne. Donc, ça veut dire qu'à terme, on paierait notre dette plus cher. et que ça ferait aussi des ressources allouées au remboursement, enfin, aux intérêts de plus chers de la dette qui ne seraient pas disponibles pour autre chose. Après, on ne fait pas notre politique budgétaire pour les agences. On l'a fait pour retrouver nos propres marges de manœuvre, pour pouvoir financer nos priorités et pour, encore une fois, avoir cette liberté à la fois de financer nos priorités et de faire face à une éventuelle prochaine crise.
Bon, voilà, merci en tout cas. Merci pour
merci
cet entretien. Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction générale du Trésor, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous.
Merci.